Ah, moi, je définis le football comme un art, comme quelque chose qui doit donner des émotions positives, au même titre qu'une bonne peinture, parce que c'est fait par des gens normalement de talent. En tout cas, le football de haut niveau. Après, ça peut être un sport pour les gens qui font ça pour les dimanches de loisirs, le football loisir. Ça peut être un passe-temps, ça peut être une passion même pour ces gens-là. Mais globalement, au plus haut niveau, pour moi, c'est un art.
Vous avez développé votre propre méthode de formation. Sur quoi elle repose ?
Elle repose sur des choses tout à fait logiques. C'est-à-dire que, un, si on ne s'entraîne pas beaucoup, on n'y arrive pas. Deux, jouer pieds nus, ça facilite l'éclosion de ce talent. Trois, baser le recrutement plus sur la qualité que sur la quantité. 4, avoir un environnement bien adapté. 5, avoir dans l'environnement un souci scolaire. 6, avoir les bons outils, pratiquer beaucoup le ballon, développer la technique dans un premier temps, puis progressivement le sens tactique. Après, le physique suit. Et après, souhaiter que le mental de ces joueurs soit fort pour multiplier les points acquis dans les trois premiers critères.
Vous l'avez dit hein, lors de la conférence, on vous pose régulièrement cette question, pourquoi vos jeunes joueurs jouent-ils à pieds nus ?
Pourquoi jouent-ils pieds nus ? Ils jouent pieds nus parce qu'ils jouent de manière plus rapide, déjà. Donc ils apprennent tout de suite à faire les bons gestes rapidement, ce qui est important parce qu'on sait que dans le football, le gain d'une demi-seconde est décisif dans le fait de garder le ballon ou de le perdre. Ensuite, ils jouent pieds nus parce qu'ils sentent mieux le ballon. Et ils sentent bien les surfaces à utiliser plutôt que les mauvaises surfaces à ne pas utiliser. Ils jouent en plus pieds nus parce qu'il y a une économie d'énergie, parce que quand on s'entraîne beaucoup, ce n'est pas la peine de charger, surtout des jeunes enfants de 10 ans qui ont 30 kilos. Ce n'est pas la peine de mettre 500 grammes de poids à chaque pied, ce qui fait 1 kilo, ce qui représente quasiment 1 kilo sur 30, ça fait quand même beaucoup, alors que quand ils n'ont pas ce kilo, ils peuvent courir davantage et plus longtemps. Donc c'est une économie d'énergie, pour ça c'est important. Et puis, c'est aussi une économie financière tout court, puisqu'on n'achète pas les chaussures. Et c'est aussi le fait de ne pas mettre de coups. On joue sans mettre de coups. On joue sans vouloir toucher l'adversaire, parce que si on veut toucher l'adversaire avec les orteils, on va se faire mal à l'orteil plutôt que de faire mal au mollet du joueur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça, ça participe d'un jeu quasi idéal où on ne met pas de coups à l'adversaire, où on récupère le ballon sans vouloir toucher l'adversaire, et où on a une vitesse de réaction et de justesse technique avec les pieds parce qu'on sent bien le ballon et puis qu'on se fatigue moins.
Cette méthode de jouer à pieds nus, hein, vous l'utilisez dans vos académies, hein, principalement situées sur le continent africain. Est-ce qu'on pourrait imaginer transposer cette méthode en Europe où le climat est complètement différent ?
Oui, la méthode ne constitue pas seulement au fait de jouer pieds nus. Hein. Il y a tout un tas d'autres logiques qui amènent à ce que ce travail fait pendant 6, 7, 8 ans amène le joueur à révéler vraiment des bons joueurs. Mais ça peut se faire éventuellement en Europe, puisque en Europe, on peut très bien imaginer que les travaux d'entraînement puissent se faire dans une salle chauffée et qu'à partir de là, on puisse jouer pieds nus ou avec des chaussettes s'il fait vraiment un grand froid. Quoi.
Quel regard vous portez sur le football d'aujourd'hui où, à quelque part, l'argent est roi ?
J'ai rien contre l'argent dans le football, parce qu'il y a toujours eu de l'argent dans le football professionnel, c'est quelque chose de normal. Dans toute activité professionnelle, il y a de l'argent, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Le fait de gagner de l'argent est toujours lié au fait d'en faire gagner. C'est-à-dire que quand les gens ont une société, par exemple aujourd'hui les gens qui ont la propriété d'un club de football, ils sont en société, ce club de football va faire des matchs, il va gagner de l'argent. Il va gagner de l'argent, il va donc, ce club va redistribuer. Plus il va gagner de matchs, plus il va gagner d'argent, mais il ne gagnera pas des matchs s'il n'a pas les bons joueurs. Donc il faut que le dirigeant choisisse des bons joueurs. Pour les attirer, il va falloir qu'ils payent. Et on rentre dans une logique totalement économique et financière. Dire que les joueurs gagnent beaucoup d'argent, c'est certainement le cas pour beaucoup d'entre eux, mais après, expliquer que c'est quelque chose de logique, parce qu'ils génèrent eux-mêmes de la richesse. C'est le cas. Là où c'est pas logique, c'est le joueur gagne beaucoup d'argent et le club est déficitaire. Là, ça, c'est pas logique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais que le club soit bénéficiaire, par exemple Arsenal, et que les joueurs d'Arsenal gagnent de l'argent, on est dans une logique puisqu'ils ont généré cet argent.
Aujourd'hui, on tente de plus en plus à recruter les joueurs très tôt. Comment protéger, selon vous, la formation ?
Comment protéger la formation ? Il y a deux manières de pouvoir la protéger de manière, à mon avis, très efficace. Soit on change Le système de départ des joueurs, c'est en tout cas pas par l'indemnité de formation qu'on va protéger la formation. Ça, c'est une certitude. Donc ça, c'est à l'heure, il faut éliminer, il faut dire non, l'indemnité de formation, ça n'existe plus. Ce qu'il faut, il faut la remplacer par quelque chose d'intelligent qui à la fois permet de protéger les intérêts des joueurs, mais aussi de protéger les intérêts des structures de formation, voire des clubs. Et ce système existe, ça s'appelle le DNC, le droit de négocier le contrat. C'est tout un mécanisme que nous, on a mis au point et qu'on a présenté à beaucoup de dirigeants. On n'a jamais de réponse. Pourquoi ? Parce que les dirigeants, ça n'a pas l'air d'être leur première priorité. Or, dans le football, moi, je pense avoir suffisamment démontré que c'est une priorité. Maintenant, il faut peut-être poser cette question à ceux qui peuvent faire changer les choses, c'est-à-dire Infantino, Blatter, ou président de fédération, ou les présidents de fédération. Moi, c'est ce que je me propose de faire, en tout cas, au niveau de la fédération ivoirienne, puisque on m'a mandaté pour réformer et réorganiser la formation en Côte d'Ivoire.
Vous qui connaissez si bien le football africain, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour, par exemple, remporter une Coupe du Monde ?
Il lui manque d'avoir de très bons joueurs, des bonnes générations de joueurs. Il y en a eu une en Côte d'Ivoire, on pouvait penser qu'elle pourrait faire des résultats, mais elle a été un tout petit peu... on va dire contrecarré, cette équipe a été contrecarrée par des gens qui ne souhaitaient pas vraiment que les académiciens soient mis en lumière, tout simplement parce qu'ils avaient eu un conflit avec moi, quoi. Bon, même s'ils ne souhaitaient pas qu'ils aient été mis en lumière, ils ont été obligés d'en mettre pas mal en lumière parce qu'ils étaient dans des grands clubs et le public n'aurait pas compris qu'ils ne soient pas sélectionnés. Mais dès qu'un académicien ne faisait pas trop parler de lui alors qu'il était quand même bon, je prends l'exemple de Marconnet, par exemple, qui a été à un moment donné le meilleur milieu de terrain de Russie, il n'a pas pour autant joué un match en équipe nationale, tout simplement parce qu'il était académicien et qu'il y avait des gens qui étaient contre, notamment le président de la fédération, aidé en cela par le président de la SEC Mimosa. Et voilà, donc ces gens-là ont certainement contrecarré pour une bonne partie la réussite de cette génération. Je le regrette, mais c'est comme ça.
Votre première véritable expérience d'entraîneur, hein, c'était ici, à Neuchâtel, à la tête de Xamax. C'est une étape importante dans votre carrière ?
Ah ouais, c'est toujours une étape importante de passer d'un statut de joueur à un statut de joueur-entraîneur, même si c'est joueur-entraîneur. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je me suis posé beaucoup de questions, je me disais, mais j'étais au pied du mur, quoi. Quand on est au pied du mur, on panique, quoi. On se dit, merde, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, la première causerie, tout ça. En fait, j'ai été beaucoup aidé au départ, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que c'était un peu une critique, mais j'ai été beaucoup aidé parce que l'entraîneur précédent était un entraîneur qui était... pas trop convivial, on va dire, et plutôt aride, voire rigide. Donc j'avais pas de mal à être plus sympa que lui, quoi. Donc je pense que j'ai joué sur le fait aussi que j'avais été joueur avec les joueurs, que je les connaissais bien, qu'il y avait un contact qui était déjà établi, et puis ils avaient hâte de voir le changement, quoi. Et donc tout ce que je disais était du pain béni, quoi. Donc à partir de là, et puis ça s'est passé avec des joueurs qui avaient de la qualité, suffisamment de qualité pour qu'on fasse des bons résultats. Alors on m'en a attribué une partie. Moi, j'étais joueur-entraîneur, j'ai un peu plus de responsabilité, mais c'est tout. C'était les bons joueurs, il y avait des bons joueurs. Vous savez, un bon entraîneur, c'est celui qui a la bonne équipe.
Qu'est-ce qui vous a marqué lors de votre passage à Neuchâtel ?
Ce qui m'a marqué, c'est ça. J'ai vraiment eu une année sympa, parce qu'on a eu des défaites au début. Mais progressivement, plus ça allait, plus l'équipe était confiante et moins l'équipe a perdu. Les matchs retour, je crois qu'on n'a pas perdu un match. On a fait quelques matchs nuls, mais on n'a pas perdu un match. Et si le championnat dure plus longtemps, je crois qu'on finit premier, quoi. Parce qu'on ne perdait plus. Mais honnêtement, l'année de Neuchâtel reste dans ma mémoire en tant qu'une année très aboutie. Et je pense que tous les joueurs qui ont participé à cette aventure s'en rappellent, quoi, et avec beaucoup d'émotion. Mais je pense que j'ai beaucoup de joueurs que j'ai connus et qui se rappellent de ces moments bien. Alors après, ils ont vécu d'autres moments sans moi et tout aussi glorieux avec Grèce, voire même plus glorieux. Mais ça, c'était le départ et c'était quelque chose qui restait dans leur mémoire.
Est-ce que vous gardez un souvenir en particulier, une anecdote lors de votre passage à Neuchâtel Xamax ?
Moi, je me souviens d'une chose qui m'avait un peu frappé. C'est quand je suis arrivé à... C'était pas à la Manadière, c'était s'entraîner aux Fourches. Il y avait un terrain qui était très bon, qui venait d'être refait. Et je dis, mais pourquoi on ne s'entraîne pas sur ce terrain ? Alors le Suisse me répond, ah ben on n'ose pas aller. Je dis, putain, mais vous n'êtes pas courageux si vous n'osez pas aller. Parce que moi, en français, ne pas oser, c'est ne pas avoir le courage d'y aller. Alors qu'ici, ne pas oser, c'est parce que c'est interdit. Et moi, je lui dis, mais attendez, mais vous n'osez pas aller. Mais je le regardais, je dis, mais moi je vais oser, je vais y aller. Tu vois, pour moi, ce n'était pas interdit, quoi. Et ça, ça a été le premier truc. Ah merde, mais je suis pas complètement en France quand même. Et là, c'était une anecdote. Je me suis dit, ah merde, allez, ils n'osent pas aller. Ça veut dire. Alors après, bon, j'ai fini par prendre l'accent suisse. Hein, et j'ai fini, alors que je voulais pas le prendre l'accent. Honnêtement, je dis, bah, c'est pas un super accent. Je veux pas le prendre. J'ai jamais pris l'accent niçois, alors que c'est pas si mauvais que ça. Mais l'accent suisse, je le l'avais. Quand je suis parti après en France, les mecs me disaient « Ah, mais t'as l'accent suisse !» Et je m'en étais pas aperçu. Parce que je parlais, en fait, je voulais tellement être compris par eux que je parlais comme eux, quoi. Et ça, c'est deux anecdotes. C'est-à-dire qu'en fait, on prend l'accent d'autant qu'on a envie d'être compris. Ça doit être valable dans toutes les langues.